Donc, on va y aller avec la première série de, disons, d'interventions. Premier élément, j'aimerais qu'on parle des difficultés et des enjeux. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, parce que plusieurs d'entre vous êtes vraiment en contact direct avec les étudiants. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir un peu le portrait. Qu'est-ce qui se passe? On va peut-être commencer avec Martine, puisqu'on a travaillé et échangé là-dessus pendant une prochaine année. Mais par la suite, j'aimerais bien entendre tout le monde.
La première des choses que je dois dire, la plus grande difficulté à l'UQAP, on a 7 centres et campus physique en plus de la formation à distance. Donc, lorsqu'on parle de déployer des actions, des activités, peu importe ce qu'on veut faire, on est dans un souci d'équité, d'égalité. Donc, rejoindre tous nos étudiants parents, ça implique de tenir compte de plein de variables. Donc, ça, c'est une grand défi qu'on vit encore à tous les jours. Je pourrais vous en parler un peu plus en détail là, quand je vais vraiment vous présenter le projet pilote. Donc, on tricote avec cette réalité-là toujours quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir nos étudiants parents. Donc, on a des gens à Montréal, on a des gens en Abitibi, à Mont-Laurier. Puis ça, c'est juste nos centres et campus. Je ne parle même pas de la formation à distance. On a des gens partout au Québec, parfois même à l'extérieur du Québec. L'autre enjeu qu'on a aussi, c'est qu'on est une petite grande université, ce qui fait qu'on a quand même des ressources assez limitées. On a été approché par Diane Gabriel, que je remercie vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle opportunité qu'on a à l'UQAP de pouvoir travailler en collaboration ensemble. Mais le projet a commencé à se déployer en septembre. La politique était adoptée, mais elle n'était pas encore diffusée. Le temps d'embaucher quelqu'un pour nous soutenir dans nos actions, mettre en place un comité de parents, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Il y a des délais qui ont été plus longs que ce à quoi on s'attendait. On a fait preuve de flexibilité. Diane Gabriel aussi a bien fait preuve de flexibilité dans tout ça. Donc, il faut s'adapter à cette réalité-là, qu'on a tous des charges de travail bien remplies. Qu'il y a déjà des fois des gens, des collaborateurs internes qui devraient nous aider, mais qui sont absents, en congé, les équipes sont incomplètes. Donc ça, pour nous, ça a été une réalité de dire, ben ça va prendre plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais on va le faire quand même parce que ça nous tient à cœur. Pour le moment, c'est ce que je dirais.
Excellent. Qui veut continuer? Oui?
Nous, à l'Université Laval, on a été la première université à développer une politique pour les étudiants parents. Avec tous les défis que ça peut engendrer au niveau de la mise en application de la politique en règle générale. La faire connaître autant auprès des étudiants qu'autant d'après des professeurs de la communauté universitaire en général. La politique a été mise en place en 2019. Par la suite est arrivée la pandémie, avec les défis qu'on a eu avec la pandémie. Donc, la politique, à travers ça, on a essayé de travailler de la mettre en valeur. Par contre, je dois dire qu'au niveau, le grand défi, ça reste de la faire connaître surtout auprès du personnel de l'université. Les étudiants, on a la chance, nous, à la Direction des services aux étudiants, j'ai la chance de collaborer avec l'APÉTUL, qui est notre association étudiants-parents, qui est très, très active comme association étudiante. D'ailleurs, je les remercie beaucoup pour leur engagement parce que beaucoup d'idées qu'ils ont eues au fil des années, puis leur travail acharné aussi envers l'université en général, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une politique étudiant-parent, puis on a aussi développé un projet de halte-garderie, là, qui vient d'ouvrir là, cet été. Comme enjeu par la suite, ce qu'on vit actuellement avec la politique, c'est au niveau des accommodements, en fait. Parce qu'une fois que les étudiants, une fois qu'on a cette politique-là, une fois qu'on donne des droits aux étudiants, on leur dit, bien, dorénavant, vous allez pouvoir avoir une attestation. Nous, ils viennent chercher, ils ont une attestation qui atteste qu'ils sont étudiants parents. C'est comment faire valoir cette attestation-là auprès des différentes directions de programme à l'université, auprès des différentes facultés. Ça reste un défi constant. Parce qu'il faut comprendre, à l'université, c'est quand même 17 facultés qui sont différentes à l'Université Laval. On a un bassin d'étudiants de 50 000 étudiants. Ajouté à ça, environ une vingtaine de mille de personnes là, qu'on a employées à l'Université Laval. Donc, chaque faculté ayant ses réalités, ses propres problématiques à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on fait avec une politique qui est institutionnelle pour arriver puis l'appliquer finalement, là, le plus équitablement possible à travers toutes les facultés. Il y a des programmes que c'est plus facile que d'autres, qui sont plus facilitants que d'autres de par la nature du programme, de par aussi la structure du programme, alors qu'il y en a d'autres que la réalité fait en sorte que même s'ils voulaient, avec toute la bonne volonté du monde, offrir et être beaucoup généreux avec les étudiants parents, bien, ça fait en sorte que la structure du programme ne le permet juste pas. Donc, c'est aussi une réalité, nous, à laquelle on est confrontés. Puis, au-delà de ça, je dirais aussi, c'est de faire reconnaître aussi juste de dire, dans le fond, que les étudiants parents, ils ont des droits, en règle générale. Ça aussi, c'est un défi aussi, là, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à le reconnaître. C'est un gros défi là, qu'on a. Par exemple, si on prend les étudiants en situation de handicap, bien, à ce moment-là, c'est peut-être un peu mieux balisé aussi. Il y a une loi qui existe pour les encadrer. Donc, à ce moment-là, c'est plus reconnu. Mais par contre, quand on vient dire pour les étudiants parents et qu'ils doivent avoir des accommodements, disons que c'est un peu plus des fois... les défis sont quand même assez bons de le faire accepter et de le faire...
Oui. C'est une des choses, d'ailleurs, qu'on avait constatées dans la première recension qu'on a faite. C'est que, oui, voilà, très bien d'avoir une politique, mais après, au-delà de ça, il faut avoir des mesures concrètes et comment est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant. Je pense qu'il y en a qui voulaient peut-être intervenir sur le soutien. Bien, ça a été mentionné un peu, l'organisation. Mais Donia ou Cindy, si vous aviez des choses à dire, peut-être, c'est ça, sur le rôle des acteurs, justement, dans l'organisation.
Oui, je vais rebondir là-dessus. Moi, je vais parler plus des difficultés du côté étudiant. Du côté des parents aux études. Si je remonte, il y a une quinzaine d'années avant qu'on crée notre comité, notre groupe étudiant, le problème était essentiellement que chaque parent aux études était isolé dans un coin à penser que sa situation est exceptionnelle. Là, maintenant, on est un groupe étudiant bien installé avec une histoire, etc. Mais le problème principal qui fait qu'on a eu besoin d'avoir une politique institutionnelle, c'est que on faisait du soutien direct, on gérait tout le temps les mêmes cas, c'était du cas par cas, mais c'était toujours les mêmes problèmes qui revenaient, donc ça avait quelque chose d'infini et désespérant. Et grosse difficulté de mobilisation quand même. Là, on a réussi à le faire, on a réussi à obtenir une politique, donc ça prouve que les parents aux études peuvent être mobilisés, mais c'est quand même c'est un gros combat, parce que c'est des gens qui sont très chargés de travail. Justement, maintenant, l'UQAM vient juste d'adopter une politique sur la conciliation. Donc, c'est tout nouveau. On est dans l'adaptation, là. Et l'université s'engage dans cette politique à bonifier l'accès aux ressources et l'offre de services pour les personnes parents aux études et proches aidantes. Puis, elle s'engage aussi à aménager des lieux et des locaux qui tiennent compte de nos besoins. Dans les faits, pour le moment, on a une personne ressource de l'UQAM qui a été attribuée à l'accompagnement des demandes d'accommodement. Donc ça, c'est quand même une bonne charge de travail qui nous est en partie retirée, parce que jusqu'à maintenant, c'était nous, parents aux études, entre nous, qui faisions ça, avec Annie, notre coordonnatrice, qui est notre ressource employée, qui s'occupe bien de tout le monde, mais ça restait une grosse charge sur des étudiants parents bénévoles en grande partie. Donc, on a cette personne ressource, ça c'est super, mais il y a des grosses limites au niveau des ressources matérielles. Nous, on a une halte-garderie maintenant à l'UQAM grâce au projet pilote mentionné par la ministre. Mais c'est quelque chose qui était une initiative du CSPE, donc une initiative des parents aux études. Et c'est quelque chose qui est vraiment déterminant d'avoir une halte-garderie dans une université. On a des témoignages de parents qui n'auraient pas repris les études s'il n'y avait pas de halte-garderie. Ça a été quelque chose de vraiment important dans leur choix de venir à l'UQAM. Et on parle souvent de la question des horaires atypiques, parce qu'on parle des horaires traditionnels de cours, des cours qui sont donnés le soir. Donc, notre halte-garderie est ouverte les soirs et les samedis. C'est très important, mais c'est même au-delà de ça, en fait, juste le besoin de se concentrer. Donc, la halte-garderie, c'est vraiment nécessaire pour les temps de rédaction, etc. C'est vraiment bien au-delà de juste la question de la présence en cours. Et cette halte-garderie à l'UQAM, elle est toujours gérée, administrée par nous autres parents aux études. Donc, on est un comité d'administration bénévole, on a un comité de ressources humaines, on a du soutien de nos employés, mais ça reste essentiellement beaucoup de travail bénévole quand même. Et on paye un loyer à l'UQAM, Donc, l'UQAM nous charge un loyer pour notre halte-garderie. C'est quelque chose qui creuse pas mal notre budget. Donc, ça va être un des combats à mener pour rendre l'application de la politique, comme mentionné. Il y a les belles intentions, puis après, il y a commencer à appliquer dans les faits. Il y a beaucoup d'enjeux sur le financement de la halte-garderie qui viennent du ministère de la Famille aussi. De la manière dont le ministère conçoit c'est quoi les besoins des parents aux études qui est décalé avec la réalité. Par exemple, ben, on a juste un gros tiers de notre budget qui est financé par le ministère, alors qu'un CPE régulier, c'est quand même quasiment tout leur budget. Le ministère nous finance 39 semaines par an. Il y a beaucoup plus que 39 semaines dans une année. C'est pas vrai que nos enfants vont arrêter d'exister pendant l'été. Il y a des enfants trop jeunes pour aller dans un camp de jour. Il leur faut un service à l'année. Puis c'est pas des colis, les enfants. Ça ne se trimballe pas d'un milieu de garde à un autre. Ça se passe pas comme ça. Un enfant de 2 ans, on le change pas comme ça tous les jours. On a aussi juste 3/4 de nos heures de garde dites atypiques qui sont financées. Donc les besoins sont énormes, en fait. Les besoins sont bien supérieurs à ce qui est financé pour le moment. Donc, ce sera un mot pour nos ministres. On espère qu'elles vont se parler, se coordonner pour améliorer ça dans le futur. Ça va dans la bonne direction. On attend des développements. Donc, nous, ben, c'est sûr que là, on a dû augmenter nos tarifs de halte-garderie. Puis ça a été très difficile pour beaucoup de parents. Là, c'est crève-cœur. Là, on a beaucoup de gens qui ont pas pu avoir accès aux services puis qui ont dû bricoler, là. Ça a quand même un impact sur le parcours étudiant puis sur la santé mentale. Après, ça reste... c'est sûr que je ne veux pas cracher dans la soupe, là. C'est vraiment super. On a une politique maintenant. Puis au niveau symbolique, même si on pourrait dire que c'est juste symbolique, c'est quand même fortement symbolique et c'est une avancée. Nous, souvent, les parents arrivent dans nos bureaux en ce moment puis demandent « Ah, c'est quoi? J'ai entendu parler, il y a une nouvelle politique. J'ai un statut de parent, mais ça me sert à quoi, ce statut de parent? » On serait tenté de répondre... La mauvaise réponse, ce serait de dire « Ah, ben, ça te donne droit à la carte opus, même si tu es à temps partiel. La carte opus à tarif réduit. Ça te donne droit à concourir pour des concours de bourse, même si tu es à temps partiel. Ça te donne droit faire des contrats d'auxiliaires de recherche, même si tu es à temps partiel. » C'est des choses qui sont super. Matériellement, ça va faire une différence pour plusieurs personnes. Le droit de concourir à des bourses aussi, ça, c'est quand même un message fort à quelque part de dire tu peux être parent aux études et quand même t'inscrire dans un parcours qu'on dit d'excellence. On n'est pas exclu d'office parce que notre charge familiale fait qu'on est à temps partiel. Par contre, ce qui est quand même qui touche beaucoup plus de gens, c'est que maintenant il y a un statut reconnu. Donc c'est cet aspect de reconnaissance d'un statut qui dit OK, si tu es parent aux études, tu es donc concerné par la politique 12 de l'UQAM, qui est la politique sur le sujet. Et cette politique, ben, elle reconnaît qu'on a des défis particuliers, puis elle reconnaît que c'est pas juste une affaire individuelle, puis que chaque personne doit gérer dans son coin. Donc c'est vraiment un puissant outil de sensibilisation et de légitimation. Donc il y a vraiment cet enjeu de la légitimation face au département, face aux agents de gestion des études. Quand on demande par exemple à avoir priorité sur certains cours, un cours de jour est rempli, il est seulement disponible de soir autrement, donc on peut avoir des accommodements pour avoir accès au cours à l'horaire qui fit le mieux. Face aux profs pour les demandes d'accommodement, clairement, ça, on espère que ça va s'améliorer dans le futur, mais c'est ça, il y a toujours des enjeux d'application. On a un cas récemment où c'était une prof qui est absolument pas au courant de l'existence de la politique, qui a répondu à une étudiante qui demandait à avoir accès à l'enregistrement, un enregistrement du cours, parce que le cours est donné de soir, elle voudrait avoir accès à l'enregistrement pour pouvoir suivre le cours parce qu'elle est mère aux études. Et elle s'est fait répondre les grands classiques qu'on entendait il y a 15 ans, c'est que avoir un enfant, c'est un choix personnel, c'est pas à nous d'assumer la responsabilité. Si je t'accommode, je vais devoir accommoder tout le monde, ce serait t'accorder des privilèges, alors que ça fait 15 ans qu'on martèle que c'est une question d'équité, pas de privilèges. Et l'ironie dans tout ça, c'est que cette professeure avait déjà fait les enregistrements pour les fournir à une personne qui avait son stage à distance. Donc, à un moment donné, si on considère qu'un stage, c'est important, mais avoir des enfants, c'est pas important, il y a un enjeu de discrimination systémique selon le genre là-dedans.
bien. On voit qu'il y a pas mal d'enjeux. Là, on a parlé des universités. On va peut-être passer du côté des cégeps. Voilà, si...
Oui, allez, oui. Dans le fond, au cégep, on a une politique relative aux parents étudiants depuis un an et demi. J'ai travaillé à l'élaboration, j'ai rencontré des étudiants. Dans le fond, ce qu'on a gagné, c'est que les étudiants, ils sont considérés à temps partiel, à temps plein, même s'ils sont à temps partiel. Ils ont aussi le droit à un remboursement pour les changements d'horaire, ce qui leur permet, s'il y a des cours qui ne fonctionnent pas avec leur horaire, de pouvoir les changer sans avoir des frais associés. Puis, ce qu'on a gagné, c'est une ouverture à la discussion avec les professeurs, avec les départements pour pouvoir accommoder les étudiants. C'est sûr que c'est pas toujours rose, mais ça permet de pouvoir parler aux profs puis de leur faire comprendre l'importance que cette politique elle, a au sein du cégep. Moi, personnellement, je suis vraiment plus proche des étudiants, fait que je vais parler des difficultés que les étudiants vivent en particulier. Fait que principalement, c'est vraiment l'équilibre de travail-vie personnelle qui est vraiment un enjeu vraiment criant. On parle de gestion de temps de qualité avec les proches, maintien d'une routine saine parce qu'on veut toujours bien faire, mais des fois, on s'oublie. Supervision des devoirs des enfants, participation aux activités parascolaires ou sorties scolaires qui sont souvent mis de côté pour une question économique. Puis gestion financière, puis gestion de leur étude. Ce qui sort beaucoup, c'est la gestion du temps. Ils n'ont pas de temps. Il y en a certains qui étudient de soir. C'est interminable. Fait qu'il faut vraiment qu'ils puissent être capables de planifier minutieusement chaque chose pour que tout fonctionne et concorde. Faut prioriser les tâches les plus urgentes, mais aussi un enfant, ça tombe malade. On a des enjeux médicaux. Fait qu'il faut toujours être flexible. Moi, personnellement, je suis étudiante, j'ai un enfant d'11 ans. La première chose que je fais, c'est que je me présente, je parle aux professeurs pour qu'ils comprennent que ça se peut que mon enfant tombe malade, chose qui est réaliste. Fait que les études, ben, ça engendre un peu ce que ma collègue Ducam a parlé, là, tout ce qui est dissertation, devoir, d'aller chercher un milieu vraiment tranquille pour pouvoir étudier. C'est quelque chose qui est difficile pour les étudiants. Au cégep, on a un problème de locaux aussi, fait que c'est plus difficile de trouver un lieu. C'est ça. Par rapport à tout ça, on a des alliés qui sont les aides pédagogiques avec la politique parents. On essaye le mieux qu'on peut de les accommoder. Fait que dans le meilleur des mondes, l'aide pédagogique, elle ne va pas leur céduler un cours à 8 heures ou qui finit à 6 heures avec tous les enjeux de garderie qui ouvre à 7 et finit à 6. Fait que ça leur permet, mais comme je répète, dans le meilleur des mondes, ils essaient de faire leur possible, mais des fois, c'est pas réaliste. Le besoin économique, c'est vraiment un réel enjeu. On entend beaucoup qu'à chaque fin de mois, c'est difficile de finir les mois. Il y a des choses qui sont mises de côté. Surtout, c'est difficile quand ils n'ont pas d'emploi, parce que souvent, certains choisissent de rester juste avec les prêts et bourses, fait que c'est encore plus difficile. Et trouver un emploi aussi qui s'adapte à vos enjeux familiaux et aussi professionnels, parce que le but, c'est pas de mettre l'école de côté non plus, puis d'étudier jusqu'aux 10 heures du matin. On se le cachera pas, l'augmentation de la vie aussi, c'est un enjeu qui va de l'avant. Fait que souvent, les activités familiales, comme j'ai dit, prennent un peu le bord pour pouvoir maintenir le cap. Il y a aussi la charge mentale. On a vraiment, vraiment soulevé qu'il y a vraiment une grosse pression psychologique au sein des étudiants de l'école. Parce qu'ils veulent être des modèles pour leurs enfants, pour leur famille. Il y a une grosse performance scolaire. Ils veulent tous avoir des 90, être les meilleurs, pas couler un cours.
Comme prof, là, ils veulent tout.
Oui, c'est ça. Fait que vu que c'est un retour à l'école aussi, c'est beaucoup difficile. Fait qu'il y a cette pression-là aussi qu'ils se mettent eux-mêmes face à eux-mêmes et pour leurs enfants ou familles. On a aussi constaté qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de soutien familial, un réseau, un filet de sécurité qui permet de soit faire garder les enfants, avoir un moment pour eux pour étudier ou simplement décompresser parce que ça reste que c'est des humains à part entière. Fait que grâce à travers tout ça, là, pour pouvoir les aider, bien, on collabore avec UQAM. On a la chance d'avoir des places à la halle garderie, qui est quelque chose de vraiment génial pour nous parce que ça permet d'offrir ça que nous, on ne peut pas offrir malheureusement au cégep, chose qu'on aimerait vraiment beaucoup. C'est pas mal ça. Là, j'ai pas mal mis en dernier la vie sociale parce que à ce qu'on a compris, nous, au cégep, c'est que la vie sociale est comme un peu mise à la fin, si on a le temps, si c'est possible, si on a les sous. Fait que, comme on parlait, là, les étudiants sont vraiment isolés. C'est la raison pour laquelle le comité étudiant est vraiment une solution. C'est extraordinaire. Ils peuvent avoir des liens d'appartenance entre eux. Ils s'échangent des conseils. On parle souvent de lunch. Là. Des fois, ça a l'air banal, là, mais faire un lunch puis de ne pas tout le temps manger que des sandwichs et essayer de faire différent, c'est difficile. Fait qu'il y a beaucoup d'échanges entre les parents. Ce comité-là aussi, bien, ça leur offre de soit faire des activités à l'extérieur ensemble, de s'aider en cours, puis tout ce qui vient avec. On a aussi soulevé à Radar que le comité est vraiment intersectionnel. Comme je vous parlais tantôt, je suis aussi responsable du comité interculturel, fait qu'on collabore beaucoup, tout le monde ensemble. Nous, l'important à Radar, dans le fond, c'est vraiment de voir l'individu dans son entier, de ne pas juste le considérer comme un parent ou un étudiant. Fait que l'identité de genre, orientation sexuelle, est-ce qu'ils ont des handicaps visibles ou non visibles, contexte culturel, les croyances, différentes éducations, et j'en passe, là, il y en a vraiment plusieurs autres. Mais pour nous, c'est vraiment important de mettre ça de l'avant. Pardon, je veux juste
non, c'est bon, ça fait déjà beaucoup de défis.
Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. On a aussi constaté qu'il y a un blocage... pour certains étudiants qui sont issus de l'interculturel, d'aller chercher de l'aide. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment difficile, fait qu'on on essaie d'un peu déconstruire ce mur qu'il y a entre la personne qui vient aider les intervenants, le professeur, afin qu'il y ait une meilleure relation. Je tiens juste à souligner que mes étudiants que je rencontre sont vraiment résilients. Étant moi-même maman, je le sais que c'est... c'est un casse-tête des fois, fait que je trouve ça vraiment important de le souligner. Puis c'est pas mal ça.
C'est bien. Donc, Marie-Ève, peut-être du côté de Sainte-Foy?
Oui, alors je vais vous parler surtout des enjeux avec les services qu'on offre. Donc, je vais juste vous nommer succinctement les services, puis si vous voulez en savoir plus sur comment on les organise, ça fera plaisir. Tout d'abord, on a des services pour les parents aux études depuis environ 20 ans. Mais la politique est venue seulement en 2021. Donc, voilà. Puis, les étudiants ont un code parent, les parents aux études. Ensuite, quand ils arrivent, on fait un dîner d'accueil où tous les services leur sont présentés. C'est un dîner qu'on fait trois fois dans l'année pour être sûr d'avoir toutes les vagues d'étudiants qui entrent. On a des vignettes de stationnement aussi parce qu'on n'a pas assez de places de stationnement pour tout le monde. Donc, il y en a une trentaine qui sont réservées seulement pour les parents aux études, étant donné qu'ils doivent aller porter leur enfant à la garderie, à l'école et tout le matin. Ils ont un petit local exclusif, je dis petit, parce qu'on a environ 70 parents aux études cette session-ci. Ça va entre 70 et 100 d'habitude. Et puis, on a un local qui est fort apprécié, mais qui ne peut pas contenir 70 personnes. Il y a une banque alimentaire aussi, avec un partenariat qu'on a avec Moisson Québec. Je fais des distributions aussi, des fois, de cartes d'épicerie, cartes d'achat en épicerie. On fait des cuisines collectives 4 fois par année. Il y a des ateliers qui sont donnés sur les réalités que vivent les parents aux études, puis des activités qui sont organisées par le comité des parents aux études. Ceci dit, au niveau de l'aménagement d'horaire, c'est vrai qu'ils peuvent faire une demande d'aménagement d'horaire, mais la plupart des cours en technique, des fois, n'ont qu'un seul groupe. Donc, c'est pas possible de placer l'étudiant. Puis quand le cours est de 4 heures à 6 heures le soir, bien, il n'y a pas le choix de suivre ce cours-là ou d'essayer de le reporter à une session subséquente. Mais là, à ce moment-là, ça se peut que le programme soit allongé. Fait que ça, c'est vraiment une doléance des parents qui revient à chaque session. Les places en garderie, je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet, mais ça, on fait des recherches, on essaie de les aider, mais veut, veut pas. Il y a une garderie au cégep, c'est un CPE, donc ça passe par la place 05. C'est vrai qu'il y a une priorité, mais le temps qu'ils s'inscrivent, qu'ils fassent leur programme, finalement, ils sortent puis ils n'ont pas eu de place en garderie. Le local, comme je vous disais, qui est assez petit. Au niveau de... oui, on a une politique, puis on a un guide d'application aussi de la politique qui sert vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment dans les bons coups. Par contre, tout ce qui est absence, retard au cours, ça reste à la discrétion du professeur. Fait que c'est sûr qu'on fait beaucoup de sensibilisation. Un truc aussi, c'est d'avoir avec nous la direction des études qui est sur le comité de la politique. Ça aide énormément. Fait que c'est une sensibilisation, comme je vous disais, c'est depuis 2021 qu'on a la politique. Je vous dirais qu'en 3 ans, je vois vraiment une nette amélioration là, comparée à la première année où c'était peu connu. Sinon, ben, ça revient un peu à ça, les contraintes de temps puis les contraintes d'argent, c'est ce qui ressort le plus. Puis là, ben oui, on a une banque alimentaire, puis j'ai un partenariat avec Moisson Québec, on fait des cuisines collectives, je donne des cartes d'achat en épicerie. Mais là, avec l'inflation, avec les dernières années, depuis la pandémie, je ne sais pas financièrement jusqu'à quel point, jusqu'où on va pouvoir y aller. Sinon, je dirais, en dernier, il reste que les parents aux études, dans leurs cours, sont stigmatisés quand arrive le temps de faire des travaux d'équipe. Moi, j'aurais tendance à me coller sur un parent aux études, là, mais...
En général, mais... ils ont beaucoup de résilience, comme c'est souligné, et beaucoup de volonté de réussir. Ouais. Ouais.
Fait que voilà, ça résume un peu nos enjeux.
Excellent, merci. Est-ce que pour le CREPA, tu veux ajouter des éléments?
Je peux être synthèse.
OK, oui, synthèse, micro.
Bien, en fait, juste pour...
Allô?
Oui. Juste pour dire, tu sais, mettons, pour incarner, pour comprendre facilement ce qu'on fait, parce qu'on est intangible, contrairement à vous un peu. Puis c'est vraiment intéressant de vous entendre parler, puis c'est pour ça qu'on travaille avec vous, vous êtes terrain. Mais tu sais, exemple, aujourd'hui, j'entendrais des établissements d'enseignement parler comme ça. On verrait, par exemple, sur un territoire, c'est quoi les enjeux des établissements qui sont communs? Puis on est en train de développer des initiatives régionales. Des fois, ça s'échelonne sur 1, 2, 3 ans. Ça mélange la pratique, la recherche pour essayer de trouver des solutions un petit peu plus macro. Puis on analyse autant nos propres pratiques en tant que dans le cadre de votre travail que de vos gestionnaires, que de votre réseau, de voir les mariages qu'on peut faire avec les centres de services scolaires, avec les employeurs. Puis on analyse notre macro. Fait que grosso modo, on fonctionnerait comme ça, mais j'aimerais quand même compléter avec certains enjeux qu'on a repérés dans les dernières années. J'ai pas de solution. Parce que j'ai pas
on y viendra d'ailleurs après.
Mais j'amène quand même des choses qui nous ont, qui ont changé. Parce que puisque nos organisations travaillent depuis 10, 12 ans, ben il y a des choses qui sont encore là au niveau des enjeux en conciliation de travail, plus précisément pour nous, le moins tendance famille. Mais il y a aussi des nouveaux enjeux qui apparaissent. Donc, il y a des problèmes communs. Ça reste toujours, nous, les IRC, puis je sais, je vois qu'il y a du monde de Québec, de Montréal.
IRC,
c'est Instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. Voilà. On est fédéré par le Réseau québécois sur la réussite éducative. Et pour les gens qui viennent des villes, on a Réseau Réussite Montréal, qui est nos vis-à-vis à Montréal, IRC Capitale Nationale, Action Réussite en Abitibi. Donc, on est partout dans le Québec. Fait que ça nous permet aussi, nous, de se réseauter nationalement puis de voir c'est quoi les tendances au national. Si on a décidé de travailler la CET il y a 15 ans, c'est qu'il y avait des enjeux. On était beaucoup au niveau des adolescents à ce moment-là, hein, les 14-16 ans, qu'on trouvait qu'ils commençaient à avoir un travail puis ils pouvaient se démotiver à l'école. Fait que c'était très au niveau de l'abandon, mais maintenant, on fonctionne sur tout le spectre, c'est-à-dire des plus jeunes jusqu'à des adultes qui sont en formation. Donc, on est vraiment en mode, on veut favoriser les capacités optimales en gestion du temps, des priorités des jeunes, mais aussi de leurs aspirations professionnelles pour qu'ils vivent une expérience sur le travail réussie, équitable. Pour nous, la réussite éducative, c'est aussi ça, une belle transition aussi entre leur milieu scolaire. Puis maintenant, en plus, on sait que les gens étudient, font du développement continu, donc on peut trouver n'importe quel âge, là, une personne qui vit de la conciliation et de ce travail, fait qu'on ouvre un peu nos horizons. Nous, c'est ça qu'on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je tiens à dire qu'il y a quand même des... pour nous, quand on veut travailler la conciliation de ce travail, parfois, on est en compétition avec d'autres enjeux, des établissements encore plus grands. Et là, on est à Montréal. Je sais que ça fait longtemps que vous vivez, mais dans les régions, il y a une régionalisation de l'immigration depuis 3 ans. Donc, c'est nouveau. Il y a les établissements d'enseignement qui se questionnent, puis ils ont tellement d'enjeux en lien avec, par exemple, s'assurer que l'inclusion soit optimale pour leurs étudiants, que prendre l'angle de la CET, parfois, ça se perd entre d'autres enjeux. Ça fait que ça, c'est une réalité dans beaucoup de régions en ce moment. Pourtant, les jeunes étudiants internationaux vivent des enjeux qui leur sont spécifiques. Il y a des lois qui cadrent aussi leurs conditions de travail. Ça fait que ça, c'est intéressant d'avoir un regard là-dessus. Ce qu'on remarque au niveau des jeunes, puis ce qu'on remarque, c'est autant nos praticiens que des chercheurs. Nous, on collabore souvent avec ECOB, Recherche et Transfert, qui sont nos vis-à-vis de l'étage en bas, nos collègues. On voit quand même que les jeunes du Québec se différencient au niveau de la culture du travail. Beaucoup, beaucoup de jeunes de 15 à 25 ans combinent l'étude et travail plus que partout au Canada. Donc, il y a une culture du travail au Québec qui est quand même valorisée. On a le coût de la vie, on généralise, très stéréotypé, mais quand même, les études le mentionnent, on est une société qu'on est assez consommateur, fait qu'on a besoin de sous, fait qu'on a des jeunes parfois qui, dans leur vision à eux, ont besoin de tant de sous, donc ça peut avoir un attrait d'aller travailler rapidement. Donc, dans notre cas, de décrocher, c'est ce qu'on veut pas. On veut qu'ils se rendent jusqu'au bout de leur diplôme. Ensuite, on a le coût de la vie, vous en avez parlé tout à l'heure, mais chez nous, c'est la même chose. Fait que ça devient un petit peu difficile de convaincre les gens de dire « dépasse pas tant d'heures ou reste équilibré » quand ils disent « ouais, mais j'ai pas le choix de travailler plus. Mon logement me coûte vraiment cher. Il n'y a plus de logement, donc ça coûte encore plus cher. » Donc, pour nous, c'est nouveau, là, depuis 2-3 ans. Là, on n'avait jamais parlé de pénurie de logement, de coût de la vie extraordinaire. Mais ça rend notre message de sensibilisation un petit peu plus difficile. Sinon, nous, on a vraiment aussi beaucoup travaillé, on a considéré tout l'aspect de la sécurité au travail. Donc, dans les dernières années, puisque le travail était, je ne sais pas si c'est le cas dans les grandes villes, mais il y avait, bien sûr, là, le jeune n'est plus vu comme un individu, mais comme un pion économique. Donc, il y a beaucoup d'emplois comblés. Donc, on veut nos jeunes, on veut les attirer. Et là, ils n'étaient pas vieux, ils avaient 12-13 ans. Et les accidents de travail ont bondi en flèche. Donc, la CNSST, dans les dernières années, a popé des portraits un peu effarants. On a contribué à une... je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la loi 19 qui est passée l'année passée. Donc, ça interdit à tous les jeunes en bas de 14 ans de travailler, à moins de certaines conditions et exceptions. Et ça limite les 14-16 ans à un nombre maximal d'heures. Et nous, notre IRC, notre réseau, on a contribué à rentrer cette loi-là dans la machine en déposant un mémoire. Mais c'est sûr, c'était autant au niveau du bien-être des jeunes que de leur sécurité. Je tiens à rappeler aussi, des fois, quand on se dit vers où on s'en va, dans 5 ans, dans 6 ans, en 2030, 54% de notre main-d'œuvre québécoise aura 34 ans au moins. Donc, ça, c'est un message fort quand même de dire, tu sais, est-ce que les 34 ans au moins auront des enjeux de travail, famille, études? On aura-tu beaucoup de jeunes parents là-dedans? Donc, ça, c'est nos... Tu sais, donc, on garde ça en tête. Un autre point, puis le dernier, je m'arrêterai là. La prochaine danse. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai un chat. Et j'ai une maman âgée dont je prends soin. Et je sais que ça, c'est moins reconnu dans la conscience des gens. Si je passe 15 heures par semaine à prendre soin de ma mère, c'est plus, tu sais, c'est plus intangible. Peut-être que je dis que je cours à la garderie avec mes enfants, mais c'est sûr qu'en baisse démographique comme on est une société qui va être vieillissante. Donc, ça va être une, je crois, une réalité qui va être de plus en plus vue. Je sais qu'il y a des études qui sortent sur le sujet, ça commence à être de plus en plus parlé, mais c'est de le prendre de l'autre côté aussi. La conciliation famille, c'est aussi prendre soin de ses parents âgés. Ça prend du temps, de la patience, de l'amour. Donc, voilà, ce serait peut-être les choses que je voulais mentionner.
Merci. Je suis très contente que vous terminiez là-dessus parce que je travaille depuis quelques années aussi sur la question proche aidance et justement cette conciliation dont on a moins parlé, mais effectivement, comme vous le dites, on commence à mettre ça de l'avant. Du côté des étudiants, apparemment, il y aurait 4% qui seraient personnes proches aidantes. Dans les milieux de travail, il y en a encore plus. Et encore là, les personnes hésitent à le mettre de l'avant, surtout dans le milieu de travail parce qu'on craint justement ou des représailles ou avoir moins accès à des promotions et tout ça. Donc, et c'est un peu moins le fun de mettre ça de l'avant en général, hein? Alors que les gens sont très contents de parler à leurs enfants, leurs petits-enfants, même quand ils sont malades, on est content d'échanger là-dessus avec nos collègues. Alors que la prochaine, c'est moins le fun, mais on aime bien en parler et on a plutôt des réponses positives aussi de la part de l'entourage. Donc, je pense que cette question de prochaine danse, on va déjà régler la question par rapport à la parentalité, mais celle de la prochaine danse est très, très présente et de plus en plus, comme vous le disiez, parce qu'on est une société vieillissante. Donc, on va terminer ce bloc-ci. Moi, j'ai bien aimé toutes vos interventions. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais peut-être que tout à l'heure, d'autres personnes pourront en apporter d'autres éléments. Le coût de la vie, l'augmentation des heures de travail, l'enjeu, justement, par rapport aux heures de travail et l'effet que ça a sur la persévérance, les études, le succès aux études. Vous mentionniez que, justement, les étudiants veulent tous avoir de très, très bonnes notes, mais parfois, ils nous envoient des courriels en disant « Ah, ben là, j'ai pas pu parce que. » Ça arrive très, très souvent lorsqu'on est parent ou personne proche aidante. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de ça. La compréhension des employeurs. Moi, j'ai interviewé un bon nombre de jeunes, justement, qui conciliaient travail, études et parfois parentalité. Certains avaient des employeurs conciliants qui acceptaient qu'au moment des examens, que les heures soient réduites. D'autres disaient, ben là, moi, je vais pas m'adapter à ta vie personnelle. Autant on considère que d'avoir des enfants, c'est personnel, autant dans le milieu de travail, parfois, il y a ces mêmes réponses-là. Alors, pour les personnes qui ont travail, études, et vie personnelle, c'est d'autant plus complexe. Déjà, c'est complexe quand on a simplement famille et que l'employeur ne veut pas adapter à nos besoins. Donc, ça, c'est un gros enjeu. Donc, l'emploi, les finances, toute cette question-là. La gestion du temps, c'est majeur. Ça ressort beaucoup. Les horaires tels quels, à la fois en emploi et, bon, je pense que vous avez évoqué la question de la précarité sur le marché du travail. On sait que les emplois sont de plus en plus précaires avec des horaires très variables. Alors là, on a concilié entre les horaires d'études, de travail. Moi, je sais que je reçois beaucoup de courriels de demandes, d'informations parce que ben, les personnes font les travaux le vendredi soir, le samedi matin. Il faut vraiment répondre. Ben, enfin, moi, j'essaie de répondre. On n'est pas obligé de le faire. On peut attendre 48 heures. Mais nous, bon, on sait très bien que moi, je sais qu'il y a des personnes qui veulent faire leur travail à ce moment-là. Si je ne réponds pas avec une réponse sur le cours, ben là, elles sont obligées d'attendre à lundi, puis je trouve ça dommage parce que c'est le moment où elles ont le temps. Mais voilà, pour vous dire la complexité des horaires. La question de la légitimité aussi a été mentionnée. Je crois que ça, c'est un enjeu. Avec la politique, ça aide à accroître la légitimité. Ça peut peut-être aider les personnes à ne pas se sentir aussi seules pour effectivement demander à l'enseignant, parce que bien sûr, on sait qu'il y a toutes sortes de demandes. Moi, je me souviens que les premières années, j'avais des demandes de la part de certains garçons qui jouaient au hockey. Ben, pour eux, c'était aussi important que... Bref, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes. Alors, le fait d'avoir un statut confirmé, ça aide, je pense, pour justement légitimer les demandes des personnes. Voilà. Je voulais peut-être juste mentionner, on l'a rapidement mentionné, je pense que dans le cas de l'UQAT, il y a beaucoup d'étudiants autochtones. On avait une personne d'un centre d'amitié autochtone qui devait être présente parce que c'est quelque chose qu'on a aussi documenté, le fait que les jeunes femmes autochtones ont des enfants plus jeunes, donc dès les cégeps, notamment sur la Côte-Nord, elles sont très présentes. Et par rapport au soutien familial qui était mentionné, je sais que dans certaines entrevues, elle disait, ben moi, quand je suis dans ma communauté, j'ai un soutien très important. Quand je dois me déplacer pour aller au cégep, je change complètement de réalité. Alors, c'est aussi la réalité d'un certain nombre de Québécois francophones, mais je voulais le souligner étant donné que malheureusement, la personne qui représentait les centres d'amitié autochtones ne pouvait pas être présente, mais je pense que c'est aussi une réalité dans beaucoup de régions au Québec et donc les établissements d'enseignement. D'ailleurs, c'était la journée de la vérité et de la réconciliation avant-hier. Je pense que c'est bien qu'on reconnaisse comme ça théoriquement, mais on nous demande de faire des actions. Alors, je pense qu'on a un petit peu fait le tour sur ces enjeux-là des difficultés, en tout cas, avec à la fois des éléments qui ont été mis de l'avant.